I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Minute Papillon.
Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on s'interroge sur comment rester serein quand tout s'effondre avec le philosophe Fabrice Midal. La crise sanitaire du nouveau coronavirus, ce n'est pas demain qu'elle va s'éteindre. La crise économique, elle est pour aujourd'hui et les conséquences sont encore inimaginables. Sans parler de la crise écologique majeure, mis bout à bout, des pans entiers de notre monde, de notre vie semblent se briser. Comment, dans cet état de crise multiple, faire face à la peur ? Et l'angoisse, sans être ni dans le déni, non, ça n'existe pas, ni submergé par la panique, on va tous mourir. Ce sont des questions posées par Fabrice Midal, philosophe, écrivain, fondateur de l'école occidentale de méditation. L'homme aux célèbres lunettes jaunes propose quelques pas de côté dans « Comment rester serein quand tout s'effondre », publié ce jour aux éditions Flammarion. Entretien tout de suite avec Fabrice Midal et première question, qu'est-ce qu'on fait face au chaos de la vie ?
Ça fait très longtemps que je réfléchis à cette question. Qu'est-ce qui tient quand on vit une vraie difficulté ? Mais chaque fois que je parlais de ça, il y a une sorte de réticence. Les gens ont l'impression que parler du négatif. C'est mal et je pense que c'est une erreur. Mais pendant le confinement, les gens ont bien senti que mon discours qui parle de la nécessité d'arrêter, de vouloir être zen, être calme et de rencontrer les difficultés est en réalité ce qui donne le plus de confiance et de joie. Et donc, c'est ça que je me suis rendu compte. Et donc, pendant le confinement, d'un seul coup, j'ai vu que mon propos était particulièrement audible et les gens, ça les a énormément parlé. Donc, je me suis dit, peut-être c'est le moment de faire ce livre auquel je pense depuis très longtemps.
La crise dure depuis 8 mois et les prochains mois ne n'apparaissent pas très joyeux. Et c'est une expérience collective avec la peur de la mort, la peur pour ses proches, la peur de perdre son travail, son logement, sa compagne, son compagnon. Et j'ai l'impression, alors c'est une impression personnelle, mais peut-être qu'elle est plus largement partagée, qui sait, de se dire je suis seule face à cette crise, je suis seule à vivre ce que je vis.
La première chose, c'est quand nous vivons une difficulté, aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, crise sanitaire, mais aussi crise économique, crise sociale, mais plus largement, pour toute personne qui vit une grande difficulté, une grave maladie, qui doit accompagner un proche, le réflexe immédiat, c'est de se dire qu'on est seul. C'est de penser qu'on est seul dans cette situation. Et la raison en est que quand je parle à mes voisins, à mes collègues de bureau, ils vont pas me dire les difficultés qu'ils vivent. Et ça fait partie de la vie. On fait bonne figure et c'est rare les moments où on laisse tomber le masque pour parler à cœur ouvert. Mais en réalité, tout le monde a vécu des grandes difficultés. Quand on prend un moment pour parler avec la boulangère, la gardienne de l'immeuble, nos voisins, on se rend compte que chacun a vécu son lot de grandes difficultés. J'avais parlé un jour avec un de mes amis qui est un enseignant de méditation aux États-Unis, Jack Kornfield, et qui m'avait raconté qu'une fois, il avait dans une grande conférence, une femme s'était levée et lui avait dit « J'ai perdu mon enfant, ce que vous dites ne peut pas m'aider. Je suis seul. » Et il avait demandé à toutes les personnes qui avaient vécu une grande difficulté, qui avaient connu aussi le suicide d'un proche, de se lever. Et à la surprise de la dame, énormément de gens s'étaient levés. Et elle avait senti et éprouvé à ce moment-là que elle n'était pas seule. Et je crois que c'est ça qui est central, c'est qu'il y a une illusion à croire qu'on est seul, mais nous ne sommes pas seuls. Et depuis que l'humanité existe, les êtres humains ont vécu des grandes tragédies. Au fond, depuis des milliers d'années, nous avons une épreuve à vivre, mais mes grands-parents qui ont vécu le nazisme ont aussi vécu des moments très difficiles. Donc je crois que en réalité, vivre des épreuves, c'est l'humanité ne cesse de le vivre et ne cesse de montrer des capacités à y faire face. Et ce que j'appelle sérénité, c'est pas être à l'abri dans une sorte de caverne, de grotte, de bulle ou de forteresse intérieure hors du monde. Mais la sérénité, c'est justement la capacité avec cœur de pouvoir vivre tout ça. Et ça, c'est ça que je crois qui est absolument central. Et ne rien montrer, c'est la tendance première, mais qu'en réalité, c'est pas une bonne approche parce que c'est l'idée qu'il faut serrer les dents et continuer à avancer et que si je rencontre mes difficultés, elles vont m'engloutir. Mais il y a une autre voie entre le déni et l'engloutissement. Et ce que j'essaie de montrer dans ce livre, comment rester serein quand tout s'effondre, c'est justement que la sérénité, c'est ni le déni des difficultés, ni être englouti par elles. C'est avoir rapport à elles pour trouver la créativité, de la force, de l'allant, de la liberté, une forme de trouver des solutions là où on pense qu'il n'y en a pas. Et donc, je crois que c'est vraiment une très mauvaise idée de faire le canard et d'attendre que les gouttes passent et d'aller mieux. Je crois que, comme le dit Hannah Arendt, la pire chose qu'on puisse faire dans une crise, c'est de faire ce qu'on connaît déjà. Et qu'au contraire, d'assumer la crise, de voir les difficultés, c'est un peu incertain, inquiétant au début, mais ça permet d'inventer des solutions complètement nouvelles.
Vous faites un appel à l'action. Vous dites on est trop souvent trop spectateur de nos vies. Et vous prenez, pour filer la métaphore animalière, la parabole du homard.
Je pense souvent qu'on a une difficulté. Nous avons tendance à nous replier ou à vouloir comprendre nos problèmes, nous replier sur nous-mêmes et essayer de comprendre pourquoi je souffre, pourquoi j'ai mal. Et que souvent, c'est en faisant des choses qu'on arrive à les dépasser. Et la métaphore du homard, c'est le homard, quand il grandit, à un moment, sa carapace, elle devient trop étroite. S'il allait voir les conseillers de bien-être habituels, il leur dirait respirez, soyez zen, ça va passer. Mais heureusement, il n'écoute pas ses conseillers et il va sous une pierre, il laisse tomber sa carapace, il prend le risque de la laisser tomber, puis une nouvelle pousse qui lui permet, dans lequel il se sent plus à l'aise. Puis, quelques temps plus tard, la carapace devient à nouveau trop étroite, il a grandi et donc il refait la même opération. Et je trouve que c'est une belle métaphore de comment on doit vivre. Il y a des moments de crise qui nous invitent à une mue, une métamorphose, une transformation, et que vivre, c'est ça. Et que devant les difficultés de la vie, elles sont parfois difficiles, mais il n'y a pas d'autre possibilité que de voir par où on peut les transformer. Et que bien sûr, il y a des fois, on n'y arrive pas. Bien sûr, des fois, ça prend du temps. Ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est bien de se souvenir que le chemin qui rend heureux, qui nous permet d'aller de l'avant, c'est un chemin qui nous invite à métamorphoser nos difficultés, à transformer nos problèmes, et pas à essayer soit de les gérer, c'est-à-dire de les contrôler avec une sorte de violence agressive, comme si on pouvait tout contrôler, soit dans cette sorte de naïveté qu'il faudrait être zen, être calme, respirer en pleine conscience, ou toutes ces choses-là sur lequel je suis critique, parce que ça me semble reposer sur une invitation à autant d'impuissance. Et que je crois que le problème que nous avons tous aujourd'hui, c'est que nous nous sentons trop impuissants. Et j'avais envie, en écrivant ce livre, de montrer par où trouver de la force, par où trouver du courage, par où trouver de l'allant. Je crois que c'est ça que nous avons besoin. Et vous voyez, dans mon titre, qui est un peu singulier, parce que comment rester serein quand tout s'effondre, on entend plutôt serein dans le sens d'être zen, mais serein, c'est ça, c'est aller avec le mouvement, c'est accepter que rien n'est statique pour nous, les êtres humains, et qu'on est serein quand on accepte de se mettre en mouvement, d'accepter le mouvement. Je crois qu'il faut penser le homard comme serein, d'accepter d'être métamorphosé.
Vous dites que la crise n'est pas forcément négative, douloureuse, la crise peut être aussi une opportunité pour tout reconstruire.
Une crise, c'est un changement et une opportunité. Toute crise, c'est ce que disent les Chinois en mettant deux caractères, Weiji, qui est à la fois le côté un changement, une rupture, et une opportunité impossible, une chance. Et toute crise, au fond, est l'occasion d'inventer des nouvelles choses. Mais tout le monde le sait et tout le monde l'oublie. C'est-à-dire que tout le monde raconte qu'ils ont vécu une difficulté, ils ont vécu une maladie, un divorce, un changement. Et au début, ils ont pensé que c'était une catastrophe, mais des années plus tard, souvent, ils se rendent compte que c'était un moment important qui les a aidés à se reconstruire, à revenir à l'essentiel, à oser des choses qu'ils n'osaient pas faire. Le peintre Matisse, il a découvert la peinture parce qu'il a une maladie qui l'a cloué au lit, il n'avait rien d'autre à faire, donc on lui a donné de la peinture pour s'occuper, et puis voilà, il est devenu peintre, donc la maladie lui a permis de se réinventer. Mais plus largement, je pense que nous sommes dans un moment extrêmement... nous sommes devenus beaucoup trop fragiles et faibles parce que nous avons l'idée que le négatif, c'est mal. Et je crois que le négatif n'est pas mal. Quand j'étais étudiant en classe terminale, je me souviens, en philosophie, on devait faire des dissertations et on nous apprenait qu'il y a une thèse, une antithèse et une synthèse. Et c'était un peu scolaire, mais l'idée me semble tellement profonde. C'est qu'on pose quelque chose et si on ne le contredit pas, si on ne passe pas par le négatif, c'est très unilatéral, c'est très faible. Et le passage par le négatif, le passage par la difficulté, le passage par une mise en question, par une interrogation, est vraiment décisif. Et aujourd'hui, le négatif nous fait peur. Il faudrait toujours tout positiver. Et je crois que c'est la meilleure manière d'être malheureux. Les douleurs, les difficultés, les questionnements, les incertitudes sont pas mal. Ça fait partie du mouvement de la vie. Et si on prend l'image du homard, il y a du moment négatif quand il doit changer de coquille. Et c'est pourtant formidablement beau. Et j'aime bien nager, et nager, c'est faire l'épreuve que l'eau vous invite à couler et que vous transmutez le fait que vous coulez en joie, en beauté, en force. Et donc, je crois que dans la vie, il y a toujours un dialogue, un jeu entre le négatif et le positif qui permet une sorte de polarité des contraires qui est le mouvement de la vie, qui rend heureux, qui donne de l'allant. Et en voulant couper, en voulant qu'il n'y ait plus d'ombre, on devient extrêmement inquiet, apeuré et plus à même de rebondir dans les situations de l'existence. Donc, ce qui me semble central, c'est qu'il faut accepter que parfois on a mal, que parfois c'est difficile et que ça va être l'occasion de trouver de nouveaux chemins.
Merci à Fabrice Midal pour cet entretien. Il publie ce jour son essai « Comment rester serein quand tout s'effondre » aux éditions Flammarion. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes vos applications et plateformes d'écoute préférées. Par exemple, la plus connue, Apple Podcast, mais aussi Spotify, Deezer, Acast, Echo, TukTak et bien d'autres plateformes. Ben oui, Podcast Addict par exemple. On se retrouve demain. Portez-vous bien.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.